Bonjour, vous êtes bien sur Esprit Occitanie, c'est Patchwork. Patchwork, c'est une série de chroniques sur des sujets divers et variés, animés par des animateurs qui le sont tout autant. Au gré des émissions et du temps, ils vous parleront de droit, de finances, de vin, de cinéma, de bien-être au travail et de bien d'autres choses encore. On les écoute. We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? Nobody but you and me. We've got it together.
Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ces nouvelles chroniques de Maître Marie. Alors après les deux chroniques de fond de ces dernières semaines, revenons à notre credo « Apprendre en s'amusant » et jouons un peu. J'avoue qu'on aura hâte de pouvoir rejouer tous ensemble dans le studio comme on le faisait lors de nos premiers enregistrements et de mimer les bruits de buzzer, mais ce n'est pas pour tout de suite. Alors vous l'aurez compris, en vous parlant de buzzer, eh bien je vous propose à nouveau un 4 à la suite.
Ah oui, 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 oui.
Et voici donc 4 nouvelles questions en droit du travail. Alors, attention, c'est parti, réellement ou fictivement, main sur les buzzers. Première question donc, en droit du travail. Est-ce que j'ai le droit d'imposer des plages horaires aux salariés en forfait jour? Les forfaits en jour sur l'année peuvent être conclus par les salariés cadres qui disposent sous certaines conditions d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, et les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être déterminée et disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Ces salariés au forfait annuel en jour ne sont pas soumis au décompte de la durée du travail en heures ni aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail. Lorsque ces salariés sont intégrés dans un planning imposant leur présence au sein de l'entreprise, ils ne peuvent pas être considérés comme des cadres ou salariés autonomes et donc soumis à une convention de forfait annuel en jour. Cette pratique, selon la Cour de cassation, est en contradiction avec la notion de cadre autonome. Donc non, vous ne pouvez pas imposer des plages horaires de présence aux salariés en forfait jour. Si vous le faites, ils ne peuvent pas être considérés comme des salariés autonomes. Ce sont donc des salariés intégrés soumis à l'horaire collectif et au régime des heures supplémentaires. Pour rappel, les salariés ayant signé une convention de forfait en jour ne travaillent qu'un certain nombre de jours dans l'année. Ce nombre de jours travaillés est fixé par la convention individuelle. La durée de travail de référence est de 218 jours, journée de solidarité comprise. C'est l'article L3121-64 du Code du travail qui nous le dit. Au-delà, les salariés bénéficient de jours de repos. Alors, pour des raisons de santé et de sécurité au travail, l'employeur doit s'assurer régulièrement que la charge de travail des salariés en forfait jour est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de travail. Ça passe notamment par un suivi des temps de repos de ces salariés. Ils ont droit à un repos quotidien d'une durée de 11 heures consécutives, ainsi qu'au repos hebdomadaire de 24 heures, ce qui leur donne, à minima, même en n'étant pas très bon en maths, un repos hebdomadaire qui ne peut pas être inférieur à 35 heures. Deuxième question, et on reste toujours dans le droit du travail. Est-ce qu'un employeur a le droit de refuser de rembourser les titres de transport en l'absence de justificatif? Alors vous le savez, les employeurs ont l'obligation de prendre en charge une partie des frais de déplacement des salariés qui utilisent les transports publics. Ces déplacements doivent être accomplis au moyen de transports publics ou de services publics de location de vélos. La prise en charge est de 50% minimum du coût des titres d'abonnement pour les déplacements accomplis entre la résidence habituelle et le lieu de travail. Le remboursement s'effectue sur la base des tarifs de deuxième classe et doit correspondre au trajet le plus court entre le domicile et le lieu de travail, et il doit avoir lieu au plus tard dans le mois suivant celui pour lequel l'abonnement a été utilisé. Les titres dont la période de validité est annuelle font l'objet d'une prise en charge répartie mensuellement pendant la période d'utilisation. Et la prise en charge des frais de transport par l'employeur est subordonnée à la remise ou à défaut à la présentation des titres par le salarié. Donc oui, sans justificatif présenté, eh bien un employeur n'a aucune obligation de prendre en charge une partie du coût de l'abonnement. Alors attention, un accord collectif peut prévoir d'autres modalités de preuve et de remboursement. Donc courez vite lire, le cas échéant, vos accords collectifs ou votre convention collective. Troisième question, est-ce que j'ai le droit de demander au médecin du travail le dossier médical d'un salarié? Bah oui, c'est vrai que des fois, en termes d'aptitude, d'inaptitude, ça démange. Bah, c'est se heurter là à la question du secret médical. Au moment de sa visite d'information et de prévention, le médecin du travail constitue le dossier médical en santé au travail du salarié. Cette visite, rappelons-le, peut également être assurée par le collaborateur médecin, l'interne en médecine du travail ou un infirmier. Ce dossier médical en santé au travail retrace les informations relatives à l'état de santé du salarié suite aux expositions auxquelles il a été soumis. On y trouve également les avis et propositions du médecin du travail, comme par exemple les recommandations de changement de poste en raison de l'état de santé du salarié. Dans la continuité de la prise en charge, ce dossier peut être communiqué à un autre médecin du travail, sauf refus du travailleur. Ce dossier est tenu dans le respect du secret médical et la confidentialité de l'ensemble des données est ainsi assurée. Donc non, un employeur n'est pas autorisé à réclamer le dossier médical de ses salariés, et ce, quel que soit le motif invoqué. Alors il faut savoir que le salarié a la possibilité de faire transmettre son dossier au médecin de son choix, qui pourra ainsi avoir connaissance des constatations du médecin du travail. Mais sachez que lorsque le dossier médical en santé au travail sera intégré au dossier médical partagé, ces données seront accessibles aux professionnels de santé, sauf opposition de l'intéressé. Alors on rappellera que le médecin du travail assure les visites médicales, mais il a également un rôle de prévention. Pour cela, l'employeur travaille en étroite collaboration avec lui, mais sans qu'il soit nécessaire que le dossier médical lui soit transmis. Le médecin du travail transmettra un exemplaire de la fiche médicale d'aptitude. Elle pourra ainsi être présentée à l'inspection du travail et au médecin inspecteur du travail à leur demande. Le médecin du travail ne note évidemment sur cette fiche que ses conclusions administratives, aptitude sans restriction ou demande d'aménagement du poste, par exemple. Alors, à l'inverse, petite parenthèse, il arrive que dans les contentieux relatives à l'inaptitude, le salarié qui a demandé communication de son dossier médical fasse le choix d'en produire copie dans le cadre d'un litige prud'homal, par exemple. Mais là, ça relève de sa décision. C'est son dossier médical, il choisit lui-même de lever le secret. C'est une autre question. Et dans ces cas-là, effectivement, l'employeur va pouvoir prendre connaissance des éléments qui y figurent. Mais ce sera là, à ce moment-là, une pièce produite par le salarié lui-même. Et on se doute que s'il le fait, c'est qu'il a une bonne raison de le faire. Quatrième et dernière question de notre 4 à la suite en droit du travail. Est-ce que j'ai le droit de licencier pour une cause réelle et sérieuse un salarié qui vient d'être papa? Alors, on sait que la femme enceinte bénéficie d'une protection particulière. Elle est protégée pendant sa grossesse et pendant l'intégralité des périodes de suspension de son contrat de travail auxquelles elle a le droit au titre de son congé maternité. Cette protection spécifique contre le licenciement se poursuit également pendant les 10 semaines suivant l'expiration du congé maternité. La protection est absolue pendant les périodes de suspension du contrat de travail, congé maternité et congé payé suivant le congé maternité, c'est-à-dire qu'un licenciement ne peut pas prendre effet ou être notifié pendant ces périodes. Il existe des cas où le licenciement est possible avec des motifs très limités, faute grave de la salariée qui ne doit pas être liée à son état de grossesse, maintien impossible du contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ces deux cas, le licenciement ne pourra pas être notifié ou prendre effet pendant le congé maternité. Vous devrez attendre le retour de congé ou alors le licenciement sera nul. Alors ça, c'est la maman, mais qu'en est-il du jeune papa? Eh bien, la protection contre le licenciement ne se limite pas qu'à la mère de l'enfant pendant sa maternité et les 10 semaines qui suivent son retour. Tous les parents bénéficient de la protection contre le licenciement pendant les 10 semaines suivant la naissance de leur enfant. Cette protection contre le licenciement est issue de la loi sur l'égalité réelle entre les femmes et les hommes du 4 août 2014. Attention, cette protection ne s'applique pas en cas de faute grave de l'intéressé ou en cas d'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant. Vous retrouvez là les deux exceptions dont je vous ai parlé il y a quelques instants pour les mamans. Donc non, on ne peut pas licencier un salarié qui vient d'être papa pour une faute simple ou pour une cause réelle et sérieuse. Il bénéficie lui aussi d'une protection pendant les 10 semaines suivant la naissance de l'enfant. Voilà, chers auditeurs, c'est la fin de notre 4 à la suite du jour. Peut-être avez-vous joué et même gagné. Peut-être une séance de rattrapage s'impose-t-elle. Dites-le nous, dites-le moi sur la page Facebook d'Express Occitanie. Si vous souhaitez nous réécouter, rejouer, et bien retrouver cette chronique ce soir à 23h, mais aussi mercredi matin à 10h. Et bien sûr, retrouver toutes les merveilleuses chroniques Patchwork et tant d'autres dans la bibliothèque de podcast de Esprit Occitanie sur www.espritoccitanie.fr. Et on se retrouve très vite. Et je vous laisse en compagnie de mes acolytes du Patchwork. À bientôt.
We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really?
Chers auditeurs, bonjour. Monique Marc pour la rubrique « La lectrice d'Occitanie ». Je vous fais découvrir cette semaine le chapitre 10 du roman « La suerte des matars » de Frédéric Coudron, « Au diable Vauvert ». Juin 2018, Madrid. Après la visite de l'élevage de Gabriel Rojas Fernandez, nous avions repris le jet pour la capitale espagnole. Au cours du voyage, j'avais pu poursuivre mes discussions avec José Ramón. Il m'en avait appris plus sur la jeunesse et les débuts d'Ortega. Contrairement à ce que je pensais, le matador n'était pas issu d'une famille de toreros. Il était originaire d'un milieu modeste. Son père était carrossier dans un petit village, dans la campagne madrilène. Sa mère, femme au foyer, il était fils unique. Dès l'âge de 4 ans, il s'était passionné pour les corridas où son grand-père l'amenait parfois. Il aimait les taureaux et la danse. À 5 ans, muni d'une muleta de fortune, il commença à torer son chien, un labrador plus grand que lui. Puis, à 17 ans, n'ayant pas pu intégrer une école taurine, il était devenu espontaneo. L'apoderado m'expliqua qu'un espontaneo était un apprenti torero, également surnommé maletilla, qui traîne une valise, parcourant les routes à la recherche d'une bonne oportunidad, une opportunité. N'ayant pour tout bagage qu'un baluchon, une vieille cape rapiécée et une épée de bois. Pendant l'hiver, il rôdait autour des ganaderias, attendant qu'on le laisse torer une vachette à l'occasion d'une tienta. Puis, le jour de ses 18 ans, pendant la temporada de Madrid, il était entré normalement dans les arènes, s'asseyant sur les gradins, en dissimulant une muleta et une épée de bois. Au moment opportun, il avait sauté dans le callejón, puis dans le ruedo, pour tenter quelques passes avec le taureau en piste. Cette pratique était rigoureusement interdite. Il avait donc été arrêté par la police et avait dû s'affranchir d'une belle amende. Mais il avait été tellement bon que ce petit numéro lui avait permis d'être repéré. 2 ans plus tard, il recevait l'alternative des mains de Curro Romero. Sa carrière était lancée. Ces éléments modifiaient quelque peu ma vision du personnage. Ils le rendaient légèrement plus humain. Pour autant, j'étais toujours aussi déterminée à en savoir plus sur la mort de Victorino Vega. Nous avions rendez-vous l'après-midi même avec son fils pour visiter sa ganaderia. Nous avions pris possession de nos chambres d'hôtel et j'étais soulagée de ne pas devoir partager la mienne, même avec Paco. J'aimais mon intimité. Après avoir déposé ma valise, j'avais décidé de mettre ma matinée libre à profit pour entamer mon enquête. Un coup de fil sur le trajet entre Séville et Madrid avait suffi pour que j'obtienne un rendez-vous avec le lieutenant-colonel Armando Calderón de la garde civile. Très flatté d'être contacté par la presse, il avait immédiatement accepté de me rencontrer. Nous avions convenu de nous retrouver dans un café de Santa Ana, l'une des plus anciennes places de la ville qui abritait le théâtre espagnol. L'endroit était célèbre pour sa rituelle zone tapeo, un parcours typique qui mène d'un bar à un autre pour siroter de la bière ou boire du vin, accompagné exclusivement de tapas. J'y étais déjà venu quelques années plus tôt avec le père de Luan. Les lieux n'avaient pas vraiment changé. Pour mon entrevue avec le policier chargé de l'affaire Vega, j'avais décidé de mettre tous les atouts de mon côté. Comme il faisait frais pour la saison, j'avais donc enfilé une robe noire très courte, des bas, une paire de cuissardes et un petit trench beige. Je savais parfois mettre en avant mon anatomie pour obtenir ce que je voulais. En l'occurrence, le premier regard du flic ne trompa pas lorsque j'entrais dans le bistrot. Je lui plaisais à l'évidence. C'était un bel homme d'une quarantaine d'années, les cheveux noirs en bataille, les yeux noisettes, de taille moyenne, vêtu d'un jean et d'un blouson en cuir. Il parlait un français approximatif avec un accent très agréable. « Mademoiselle Delors ?»« Oui. Achetez une chaise, vous voulez un café, une boisson ?»« Une eau. Con gaz ?»« Oui. Gazeuse. » J'ôtai mon trench et m'installai. « Alors, que voulez-vous connaître de l'affaire Victorino Vega ?»«
Tout ce que vous pouvez me dire, lieutenant-colonel. »
« Prenez mon plaisir, appelez-moi Armando. »«
Très bien. »
Il me sourit, heureux de voir que j'acceptais de l'appeler par son prénom. Cependant, il prit un air sérieux pour me montrer qu'il était un bon flic. « C'est une méchante affaire. Le pauvre Victorino a été retrouvé avec une balle de revolver dans le front. » Le 24 septembre 2015. On a estimé l'heure de la mort vers 21h. J'eus un petit frisson. J'étais née un 24 septembre. Où ça ? Dans sa maison à la ganaderia. C'est là que vous avez retrouvé le verre avec les empreintes d'Ortega dessus ? On ne peut rien vous masquer.
Caché ?
Oui. Caché, excusez mon français. Il est meilleur que mon espagnol. » Il se mit à rire de bon cœur. Il n'avait rien à voir avec le connard que José Ramón m'avait décrit. Mais peut-être était-ce l'effet de ma robe. Ortega a avoué être allé boire Victorino ces jours-là à une heure proche de celle de la mort, mais il a dit qu'il ne l'avait pas estoqué. Et puis, pas d'armes. À part lui, vous avez d'autres suspects ? Pas vraiment, car l'hacienda était vide ce jour-là. La femme de Victorino, son fils et sa fille étaient partis faire les courses de Noël. C'était quel type d'arme ? La balistique a été claro. C'était un vieux revolver, un Colt Patterson de calibre 31.
C'est une arme de cow-boy, ça.
Exactement. Vous vous y connaissez ? Pas du tout, mais dans tous les westerns, on entend parler de Colt. Par contre, n'en parlez pas. Nous n'avons pas rendu l'information publique.
La serveuse apporta mon eau gazeuse. J'en bus une gorgée avant de poursuivre. Le bel Armando était pendu à mes lèvres. « Je n'en parlerai pas. Vous pouvez me faire confiance, Armando. Mais ce type d'arme ne doit pas être courant. Elle n'était pas enregistrée ?»«
Non, nous avons cherché dans tous les ports d'armes, pas enregistrée.
La trouver, c'est trouver l'assassin.
Exact. Ortega avait-il du résidu de poudre sur les mains quand vous l'avez arrêté ?» Non, il n'avait rien, mais ses mains avaient été lavées à l'eau de Ravel.
L'eau de Javel ?
Oui, pardon. Il vous a dit pourquoi ? Soi-disant parce qu'il avait soigné un cheval pour faire partir l'odeur.
Vous lui avez parlé du Colt ?
Non, on ne donne pas l'information à les suspects ni au public. Pour garder plus de chances de retrouver les revolvers.
Oui, je comprends. Et l'enquête est toujours ouverte ?
Oui, mais elle reste sur la place. Nous n'avons pas d'éléments. Les recherches scientifiques n'ont rien donné. On a même analysé les traces des
pneus des voitures dans les chemins à côté de l'hacienda, mais ça ne donne rien.
Rien d'autre? Vous n'avez pas l'ombre d'une piste? Aucun détail curieux?
Nada.
Vous dites aussi nada en France?
J'esquissais un sourire.
Oui, on le dit.
Le lieutenant-colonel avala une gorgée de café en me regardant dans les yeux. Il était séduisant et je n'avais pas fait l'amour depuis très longtemps, mais ni le lieu ni l'endroit ne se prêtaient à la bagatelle. Soudain, il reprit la parole.
Si, il y avait bien un détail, mais bon,
dites toujours.
Il y avait un papillon dans la pièce où le corps a été trouvé. C'est précieux à cette époque dans l'hiver.
C'est rare, vous voulez dire.
Si, c'est rare, et ce n'était pas un papillon qu'on voit souvent.
Il était beau?
Oui, et très grand et très beau.
Vous l'avez gardé?
Non, je me souviens juste de cela, car sa couleur était égale à celle de votre œil.
Le détail du papillon, s'il était vrai, n'était qu'un prétexte. En fait, il me draguait ouvertement, ce qui me flattait. Il y avait un bon moment que ça ne m'était pas arrivé.
Merci, Armando. Je vais devoir partir, mon collègue m'attend. Je vous laisse ma carte de visite si quelque chose vous revenait.
Il prit ma carte du bout des doigts et la détailla.
Lisse. C'est joli, lisse. Cela vient de l'hébreu Elitcheva, qui veut dire « Dieu est mon serment ».
Je ne savais pas.
L'étymologie est ma passion. On dit bien étymologie?
Absolument. Il plaça soigneusement ma carte dans la poche intérieure de sa veste, du côté gauche, celui du cœur. C'était à l'évidence un charmeur né. Il me faisait de l'effet, mais je me raisonnais. Il était typiquement le genre d'amant que j'avais collectionné jusqu'à présent. Séduisant, beau parleur, mais sans consistance à la longue. Je me levai et lui tendis la main. Il s'en saisit et la baisa. En sortant du café, j'allumai une Vogue. J'en savais un peu plus sur l'assassinat de Victorino Vega. Autant que les forces de l'ordre. C'est-à-dire presque rien.
Voilà, chers auditeurs, je suis certaine que vous êtes impatients de connaître la suite. Je vous invite donc à me retrouver la semaine prochaine. Je vous rappelle que vous pouvez écouter toutes les émissions de la radio sur www.espritoccitanie.fr ou sur l'application mobile pour Android. À très bientôt !